Il est 7h.
Bien sûr, a posteriori, maintenant, si on regarde les choses maintenant, on regrette cette publication.
Les regrets de l'imam de la mosquée de Pantin, mais c'est déjà trop tard. Gérald Darmanin a décidé la fermeture pour 6 mois après la diffusion de la vidéo mettant en cause l'enseignant assassiné. Une série d'hommages à Samuel Paty se prépare. Marche blanche ce soir, hommage national demain à Paris. Et l'éducation nationale réfléchit à un moment solennel, le jour de la rentrée scolaire, après les vacances. Jamais une campagne de vaccination contre la grippe n'avait démarré à ce point sur les chapeaux de roue. Une semaine après le lancement de la campagne, les pharmaciens craignent la rupture de stock. Dans ce journal, la mobilisation contre un méga projet d'usine de méthanisation près de Nantes. Et puis la Ligue des Champions, le retour avec PSG Manchester, mais aussi Rennes qui reçoit les Russes de Krasnodar devant 5000 spectateurs. Soirée spéciale sur Europe 1.
Juste après ce journal, les effets de la crise économique et sanitaire sur les entreprises du CAC 40. Toutes ne sont pas logées à la même enseigne. Vous allez l'entendre, l'éclairage éco de Nicolas Barré. L'Iran exsangue, durement frappé par le Covid. Le regard international de Vincent Hervouette. Le retour de la Ligue des Champions, donc c'est l'édito sport de Virginie Fulpin aussi. Et puis nous retrouverons Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
J'ai demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire fermer la mosquée de Pantin.
C'était hier soir sur TF1. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonçait 34 opérations de police contre des personnes et des associations proches de la mouvance islamiste et donc aussi la fermeture administrative de la mosquée de Pantin. Pourquoi cette décision, Pierre Herbulot ?
Ce que reproche Gérald Darmanin aux dirigeants de la mosquée, c'est d'avoir relayé une vidéo sur sa page Facebook, la fameuse vidéo de ce parent d'élève qui dénonce les cours de Samuel Paty. Marmed Henich, le recteur de la grande mosquée de Pantin, a pris note de la décision du ministre de l'Intérieur. Écoutez comment il se défendait dimanche soir.
Ce qui nous a heurté, c'est pas l'affaire des caricatures, c'est juste la partie où il y avait une demande qui est musulman parmi les élèves, qui lève le doigt et après qui sortent. On peut pas permettre ce type de distinction des élèves au sein de l'école de la République. Bien sûr, a posteriori, maintenant, si on regarde les choses maintenant, on regrette cette publication.
Dans les commentaires sous le poste, l'adresse du collège et le nom du professeur apparaissent. Pourtant, depuis l'attentat, la vidéo a été supprimée à la place de messages. Un communiqué pour condamner la sauvagerie de l'assassinat de l'enseignant. Un autre pour appeler à rejoindre la manifestation d'avant-hier, place de la République. Ça ne change rien pour le ministre de l'Intérieur qui considère que la mosquée a participer via ses réseaux sociaux à une campagne d'intimidation.
Pierre Herbulot, 15 personnes sont en garde à vue ce matin, dont 4 collégiens. Certains auraient reçu de l'argent du terroriste pour qu'il lui désigne Samuel Paty devant le collège.
La peur et l'obscurantisme ne l'emporteront jamais. C'est ce que disait le Premier ministre hier soir, Jean Castex, qui annonce d'autres actions, notamment contre la haine en ligne.
D'ailleurs, les patrons France de Facebook, Twitter, Google, TikTok et Snapchat sont convoqués ce matin par la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa. Ils vont discuter de la lutte contre le cyberislamisme.
Et pour défendre la liberté d'expression, les 13 régions de France vont publier un livre de caricatures politiques et religieuses qui sera distribué dans les lycées. Le président des régions de France, Renaud Muselier.
Nous, présidentes et présidents des régions de France, responsables politiques, affirmons que la caricature est une composante fondamentale de la liberté d'expression. Le délit de blasphème n'existe pas. Et dès lors qu'il s'agit d'humour, notre droit protège l'outrance et la parodie. C'est pourquoi nous, présidentes et présidents des régions de France, prenons aujourd'hui l'initiative de préparer la publication d'un ouvrage rassemblant les caricatures religieuses et politiques les plus marquantes. Nous associerons le ministère de l'Éducation nationale pour que cet ouvrage puisse être mis à disposition de tous les lycéens de France.
Renaud Muselier, le président des régions de France, au micro d'Aurélie Herbemont.
Une marche blanche à la mémoire de Samuel Paty se déroulera en fin d'après-midi à Conflans-Sainte-Honorine et un hommage national est organisé demain dans la cour de la Sorbonne à Paris.
De son côté, le ministère de l'Éducation nationale réfléchit à l'organisation d'un temps de recueillement à la rentrée. Il s'agit de faire de ce 2 novembre un moment à la fois solennel et républicain. Les informations de Virginie Rivard.
Le maître mot pour Jean-Michel Blanquer, c'est pas d'improvisation. Le ministre l'a martelé au chef d'établissement qu'il a reçu hier. Il souhaite un message vertical, fort sur la laïcité et les valeurs de la République. Parmi les pistes envisagées, un texte classique ou d'actualité qui serait lu partout, dans chaque cour d'école, au primaire, au collège et au lycée, avant une minute de silence. En parallèle, le ministère travaille à l'élaboration de conseils, de recommandations à adresser à tous les professeurs et chefs d'établissement en cas de contestation de refus de respecter la minute de silence. Le ministre a également évoqué la possibilité de faire appel à la société civile, avocats, journalistes, pour débattre avec les élèves. Les enseignants et personnels de direction demandent de leur côté à retarder l'arrivée des élèves le lundi 2 novembre, peut-être à 10h, pour qu'ils puissent d'abord échanger entre eux sur tous ces sujets. C'est le Conseil des sages de la laïcité créé par Jean-Michel Blanquer qui va être sollicité tous les jours durant ces 2 semaines de vacances scolaires.
Et je vous le redis, à 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur de l'éducation nationale, auteur de « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer à l'école ». On parle aujourd'hui de Jean-Pierre Aubin comme d'un lanceur d'alerte après ce rapport enterré de 2004. Il est 7h06 sur Europe 1. Cela fait pile une semaine que la campagne de vaccination contre la grippe a commencé et c'est déjà la ruée sur les pharmacies.
Oui, un chiffre parlant. En 3 jours, il s'est vendu autant de vaccins qu'en 1 mois habituellement. Les professionnels craignent donc la pénurie, malgré la commande de 30% de doses supplémentaires. Écoutez le reportage de Laura Taouchanoff.
Dans un frigo derrière le comptoir, les boîtes de vaccins disparaissent à une vitesse éclair.
Il doit rester 3 doses disponibles, les autres elles sont pré-réservées.
Camille Lefranc, la titulaire de cette pharmacie parisienne, a commandé le double, mais tout est parti en 3 jours.
On a été obligé à un certain moment de prioriser nos délivrances. Ça nous est triste parce que on est des professionnels de santé et nous, derrière au comptoir, on dit aux gens des vaccins, c'est compliqué.
Vous avez la carte de la pharmacie ?
Et même pour les personnes à risque comme Daniel, il faut parfois faire plusieurs officines pour réserver son vaccin.
J'ai un peu plus de 70 ans. Je suis arrivée à la pharmacie qui m'a dit qu'elle était en rupture et qu'il n'y aurait pas de vaccin avant la mi-novembre. Je trouve ça déplorable.
Un manque d'anticipation des autorités publiques déplore Pascal Fontaine, le directeur commercial des pharmacies Lafayette.
De mars à septembre, il devait être capable de reproduire pour vacciner en masse la population. Ou alors on ne communique pas, on ne surcommunique pas sur le fait de se faire vacciner contre la grippe. Sinon vous créez un besoin auquel on ne peut pas répondre.
Et même si 6,5 millions de vaccins doivent encore être livrés, le groupe pharmaceutique prévoit une rupture de stock d'ici 10 jours.
Et pour le Covid, le cap des 2000 patients en réanimation est désormais franchi, une première depuis mai dernier. Depuis l'entrée en vigueur du couvre-feu, 20 000 personnes ont été contrôlées, 3 000 verbalisées. Sachez aussi que l'Irlande est le premier pays de l'Union européenne à reconfiner l'ensemble de sa population, mesure qui entre en vigueur demain soir pour 6 semaines. Reconfinement aussi au Pays de Galles, mais pour 2 semaines.
La plus grande usine de méthanisation jamais construite en France. C'est un projet qui suscite la colère des habitants d'une petite commune près de Nantes. On va en parler dans la suite du journal de 7h. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h09 sur Europe 1, la suite du journal, Hélène Zélani.
Non à l'usine à gaz, c'était le maître mot de la manifestation d'hier soir dans la petite commune de Corcouët-sur-Lorgne, à une trentaine de kilomètres au sud de Nantes. Une marche pour protester contre le projet d'usine de méthanisation.
La plus importante jamais construite dans notre pays pour transformer lisier et fumier en biogaz. Charles Guyard a rencontré des opposants très remontés contre ce projet hors norme.
Pendant le confinement, on a commencé à avoir des angoisses et on s'est dit qu'il faut absolument alerter les gens.
Ce que les habitants de Corcouët-sur-Lorgne ont découvert au printemps grâce au collectif emmené par Mauricette Couéron, c'est un projet d'usine XXL à deux pas de chez eux.
8 cuves d'à peu près 20 mètres de diamètre et surtout une cheminée qui va atteindre 50 mètres de haut.
Voilà donc à quoi devrait ressembler le plus grand méthaniseur de France, prévu pour 2023 en plein milieu des champs. Odeur nauséabonde, risque d'accident, chute de l'immobilier, les désagréments sont nombreux.
On parle de 180 camions jour.
Imaginée par une coopérative locale, cette usine vise à transformer chaque année 680 000 tonnes de lisier en biogaz. Plus de 200 agriculteurs des environs sont partie prenante, parmi eux Alban Sauvager.
Les gens ne comprennent plus du tout ce qu'on fait. Oui, on a aussi besoin de développement. La société voudrait une agriculture plus bio. De toute façon, on y vient. Mais il faut nous laisser un petit peu de temps d'adaptation.
S'agissant d'un site privé, seule la préfecture a le pouvoir de stopper le projet. En attendant, si les pétitions et marches organisées ne changent rien, certains riverains évoquent déjà la possibilité de créer une nouvelle ZAD. Corcouët-sur-Lorgne, Charles Guyard, Europe 1.
Prudence dans 4 départements du sud-ouest. Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne et Ariège sont en vigilance orange à l'approche de la tempête Barbara. Les vents ont déjà atteint 192 km/h à Irati.
Le foot ce soir est le retour de la Ligue des Champions. PSG, Manchester United et Rennes qui reçoit les Russes de Krasnodar.
Et c'est la première fois que le club breton participe à la compétition. Le stade rennais monte en puissance. Après avoir remporté la Coupe de France, il découvre la plus belle des compétitions. Et en ville, Cyril Delamorinerie, on attend le coup d'envoi de ce soir avec beaucoup d'impatience.
C'est l'effervescence sur le plateau de TV Rennes. Dans toute la ville, on ne parle que du match, confirme le présentateur de l'émission Pleine Lucarne, Vincent Simoneau.
C'est le match attendu depuis des décennies. C'est l'aboutissement de toute l'histoire du club.
Et Jean-Pierre, supporter de Rennes depuis un demi-siècle, a des frissons rien que de penser à cet hymne de la Ligue des Champions qui va résonner ce soir.
D'entendre la musique, c'est génial. C'est là que c'est le plus émouvant. Penser qu'on a à voir cette musique-là à Rennes, c'est extraordinaire.
D'ailleurs, sur la façade de l'hôtel de ville, une banderole intitulée « Musique sacrée » a été accrochée. Mais attention, ce n'est pas un concert, mais un match de foot, rappelle le jeune entraîneur de Rennes, Julien Stéphan.
C'est pas la musique que j'attends, c'est le match que j'attends. La musique, on va pas gagner des points.
En revanche, une autre musique sacrée en Bretagne va résonner. Ce soir, 5000 personnes vont entonner ce chant typiquement breton au stade.
Galette, aussi je t'aime.
Les autres supporters pourront voir la première mi-temps dans un bar, la deuxième chez eux, ici, dans la capitale bretonne. Les bistrots doivent fermer à 22h. Rennes, Cyril de la Morinerie, Europe 1.
Voilà, il va y avoir de l'ambiance à Rennes. Une soirée spéciale sur Europe 1 pour le retour de la Ligue des Champions des 20h jusqu'à 23h30, présenté par Lionel Rosso.
Merci beaucoup Hélène Zelani. Il est 7h12.